conférence donnée par le père Philippe à Rimont le 9 juillet 1988.
Nous allons terminer l'Apocalypse, si j'ose dire. L'Apocalypse se termine sur le ciel. Une grande vision du ciel. Pour une prise d'habit, c'est tout à fait ce qu'il faut. Et pour une profession aussi. Alors avant, je reprends un tout petit peu la fin du chapitre 19. Et je vis le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc. J'aime beaucoup ce passage. Et je crois qu'on doit l'aimer beaucoup. C'est une des visions très extraordinaires de l'Apocalypse. Et voici un cheval blanc. Alors toujours le blanc, vous savez bien, le symbolisme du blanc, c'est la victoire de l'amour. Nous nous disons la pureté. C'est pas tout à fait juste. La pureté est une conséquence. Mais en réalité, c'est la victoire de l'amour. C'est plus beau. C'est plus grand et ça va plus loin. Parce que la source de la pureté, c'est toujours la victoire de l'amour. C'est l'amour qui exige de n'être qu'amour. C'est ça la pureté. C'est pas autre chose. C'est l'amour qui ne veut être qu'amour et qui veut justement prendre possession de tout. Et je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle fidèle et véridique. C'est avec justice qu'il juge et fait la guerre. Ses yeux sont une flamme de feu et sur sa tête de nombreux diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne sait sinon lui. Il est revêtu d'un manteau trempé dans le sang et le nom dont il s'appelle est le Verbe de Dieu. Vous voyez, est exprimé le nom de celui qui est sur ce cheval blanc, c'est le Verbe de Dieu. Je crois ça très important, puisque si l'Apocalypse est écrite avant la première épître et avant l'évangile de Jean, c'est le premier moment où il est parlé du Verbe de Dieu. C'est la première fois. Et donc, c'est à partir de cette vision que Jean a pu en parler. Peut-être qu'il le savait déjà comme un secret que Marie lui avait transmis, ce qui ne m'étonnerait pas. Il a pu le proclamer qu'ayant lui-même eu cette vision. Cavalier sur le cheval blanc. Vous voyez cette vision de Jésus victorieux à la croix. C'est magnifique, cette victoire de Jésus à la croix. Il est revêtu d'un manteau trempé dans le sang. C'est bien cela. Le mystère de la croix. Et le nom dont il s'appelle est le Verbe de Dieu. Et les armées qui sont au ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Donc on aura tous un petit cheval blanc. Vous voyez, si nous sommes fidèles. C'est le mystère de la grâce représenté par le cheval. Et la plénitude de la grâce du Christ, victorieuse à la croix, est représenté par le cheval blanc. Le cheval, c'est toujours l'animal le plus noble, il ne faut pas l'oublier. Et quand il y a le cheval verdâtre et le cheval noir et le cheval rouge feu, c'est l'opposition, la corruption de ce qu'il y a de meilleur, c'est le pire. Alors c'est la destruction du péché, représenté par le cheval vert, verdâtre, noir, rouge feu. Les trois concupiscences qui sont la destruction de l'homme. Et la destruction de l'homme, c'est bien ces trois aspects. Vous voyez, il faut bien comprendre le cheval blanc pour comprendre l'aspect négatif du cheval verdâtre, du cheval noir et du cheval rouge feu. C'est le début de l'Apocalypse. Hein. Ce sont les sceaux. On est prédestiné à travers ces luttes. Les trois concupiscences qui sont en nous. On est prédestiné dans la lumière du cheval blanc. C'est pour ça que pour moi, le premier sceau qui nous est montré au début de l'Apocalypse, que le cheval blanc ne peut être que la grâce du Christ. On est lié à la grâce du Christ. Je sais bien qu'il y a d'autres interprétations. Mais j'essaie de donner une interprétation théologique de l'Apocalypse, pas historique, théologique. Parce que l'Apocalypse est premièrement une vision de la théologie de l'économie divine. Les applications historiques, c'est second. Parce qu'elles varient selon les temps. Il est évident que pour nous, l'application de l'Apocalypse est d'une force étonnante. Ça n'a jamais été aussi fort. C'est pour ça que je crois qu'il nous est donné une grâce particulière pour comprendre l'Apocalypse. Parce que nous sommes peut-être dans la dernière semaine de l'Église. Je dis peut-être, hein, en disant ça, je ne vous affole pas. Hein, ne rêvez pas ce soir à toutes les catastrophes de l'Apocalypse. Hein. Surtout pas. Quand on dit ça, tout de suite les gens réagissent. La dernière retraite que j'ai prêchée au Cénacle, je disais ça parce que pour moi, il faut le dire. Alors immédiatement, mais mon père, vous n'avez plus d'espérance. Alors, je dis, mais quoi? Considérez qu'on vit la dernière semaine, mais c'est la plus grande espérance. Vous voyez comment notre espérance est liée à la terre. Notre espérance, elle est liée au ciel. C'est l'ancre qui nous attache au port. Et donc, si la barque de pierre est bien ancrée, c'est par l'espérance eschatologique. C'est l'espérance eschatologique qui nous donne une espérance ultime et dernière. Et on ne peut espérer que si on est ancré de cette manière, autrement. C'est vrai, si je regarde que la terre, si vraiment ma destinée était purement terrestre, je serais dans le désespoir. Je me demanderais de temps en temps s'il ne faut pas aller un peu plus vite que d'atteindre la fin de mes jours. Mon espérance, elle regarde le ciel. Quand vous avez un peu d'angoisse, un petit peu de nostalgie de la Suisse, hein, vous avez un peu ces nostalgies-là. Regardez le ciel. Alors vous n'aurez plus de nostalgie de la Suisse. Quand vous avez la nostalgie de la Pologne, regardez le ciel. Quand vous avez la nostalgie du Liban, regardez le ciel. Quand vous avez la nostalgie de votre maison maternelle et paternelle, regardez le ciel. Alors à ce moment-là, tout disparaît. Il n'y a plus que l'espérance théologale. Et l'espérance théologale, c'est le cheval blanc. C'est merveilleux, ça. Et le nom dont il s'appelle est le Verbe de Dieu. Et les armées qui sont au ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin fin, blanc, pur. Vous voyez, c'est une armée sacerdotale. La victoire est sacerdotale. Puisque le lin fin, c'est la vie des Lévites. C'est la vie sacerdotale. Et de sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les nations. Le glaive, c'est la parole de Dieu. On n'a pas d'autre glaive que la parole. Ça, c'est les prédicateurs. C'est les prédicateurs. Et qui sont à la suite du cheval blanc et du Verbe de Dieu. Puisque la prédication, c'est transmettre le mystère du Verbe de Dieu. C'est lui qui les fera paître avec une houlette de fer. Et c'est lui qui foule la cuve du vin, de la fureur, de la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Vous voyez, la cuve de la colère de Dieu, elle est liée au Tout-Puissant. On a déjà vu tout ça, je ne peux pas le reprendre, mais c'est très beau de voir que nous voyons là la grande victoire sacerdotale de Jésus. Le sacerdoce du Christ est victorieux. Et il est victorieux par la parole, par la lumière, par l'amour. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sacerdoce royal du Christ. C'est une très belle vision. Je crois que c'est la plus belle qu'on ait. Sur le sacerdoce du Christ, dans sa victoire, à la croix et dans la gloire. Parce que c'est à la fois la gloire et le combat sur la terre. Mais c'est céleste, hein. Je vis le ciel ouvert. C'est dans le ciel. C'est le ciel ouvert. C'est comme ça que doit vivre le chrétien. Il vit toujours le ciel ouvert. Quand vous oubliez que le ciel est ouvert devant vous, vous commencez à désespérer. Tandis que quand vous savez que le ciel est ouvert devant vous, vous espérez. Nous marchons tous vers le ciel. Et nous sommes tous attirés vers le ciel. C'est la grande attraction qui doit nous prendre, qui doit nous saisir. Et je vis un ange debout dans le ciel. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith. Je crois que cet ange, comme je vous ai déjà dit, debout dans le soleil, voyez bien la femme et l'ange, c'est Marie. Il y a deux symbolismes sur Marie dans l'Apocalypse. C'est la femme et c'est l'envoyé. L'envoyé du Père. Marie, c'est l'envoyé du Père. Elle vit toujours comme une envoyée du Père. C'est du reste très beau de regarder Marie comme l'envoyé du Père. Ça, c'est la vision apocalyptique. Vous voyez, dans son évangile, Jean regarde toujours Jésus comme l'envoyé du Père. Et dans l'Apocalypse, il voit toujours Marie comme l'envoyé, l'ange, par excellence, la reine des anges. Et on nomme pas Marie, elle n'est pas nommée. C'est la mère de cristal, c'est la femme, et c'est l'envoyé. Alors ici, un ange debout dans le soleil. Vous voyez, Marie à la croix, debout. pied de la croix, elle est debout, dans le soleil. Dans le soleil, c'est-à-dire dans l'amour qui vient directement de Jésus. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith. Les oiseaux, c'est la vie contemplative. Bien évident, ils volent au zénith. C'est la vie contemplative pour nous mettre au zénith. Le nid de l'aigle. Venez, rassemblez-vous pour le repas, le grand repas de Dieu, pour manger chair de roi et chair de capitaine et chair de puissant et chair de chevaux et de tous ceux qui les montent et chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. C'est extraordinaire ça, le réalisme de ce langage. Je crois que c'est le langage de Marie. Et le grand repas eucharistique, vu dans cette grande vision de la communion des saints. C'est mystérieux, ça. Hein, c'est difficile de prêcher ça en chair le dimanche. Je crois que les gens disent, mais il est complètement fou, monsieur le curé. Regardez ça, et c'est un texte révélé. Un texte sacré. Et c'est Marie qui nous dit ça. Comme à Cana. Elle nous rassemble tous pour ce repas de Dieu. Ce repas qui est le repas de tous ceux qui ont combattu avec le cheval blanc. Et qui ont combattu avec eux. Vous voyez le mystère de la communion des saints. La chair du Christ nous est donnée comme nourriture et le sang du Christ nous est donné comme boisson. Et saint Thomas nous dit que le sacrement de l'Eucharistie s'achève dans le corps mystique. Saint Thomas nous dit que la réalité ultime de l'Eucharistie, c'est le corps mystique. Alors vous comprenez. Repas eucharistique s'achève dans ce repas de la communion des saints. La vie commune, c'est comme ça. Chair de capitaine, chair de chevaux, chair, c'est extraordinaire, petit et grand. C'est-à-dire que la charité fraternelle implique une unité entre tous ceux qui s'aiment, dans une unité parfaite, on est un dans le Christ. Père, qu'il soit un comme nous. L'unité entre Jésus et le Père, c'est une unité substantielle de vie. L'unité d'assimilation entre le beefsteak de cheval que vous mangez et vous-même, c'est une unité substantielle, biologique. Ça met du temps, mais ça se fait. Quand vous mangez du pain, eh bien, vous l'assimilez. C'est le propre du vivant. Le grand vivant, c'est le corps mystique. Alors je comprends ce langage. C'est extraordinaire. C'est beau, c'est grand. La vie commune, dans la charité fraternelle, c'est ce repas commun, dans le regard de Marie avec elle. Venez, rassemblez-vous pour le repas, le grand repas de Dieu, pour manger chair de roi, chair de capitaine, chair de puissant, et chair de chevaux, et chair de ceux qui les montent, et chair de tous les hommes, libres, et esclaves, et petits et grands. On n'oserait pas dire ça à nous, hein. Il n'y a que la Vierge Marie qui peut dire ça. Une mère. La charité fraternelle implique cette unité profonde. l'opportunité substantielle par l'Eucharistie et dans l'Eucharistie. Puisque nous mangeons la chair du Christ et que nous sommes tous un avec Jésus. Il ne faut jamais l'oublier. Et la charité fraternelle réalise cela. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. La bête, c'est celle qui est toute relative au dragon, et le dragon, c'est Lucifer. Dans ce dernier combat, et la bête fut attrapée, et avec elle, le faux prophète qui par les signes faits devant elle avait égaré ceux qui avaient reçu la marque de la bête et que ceux qui se prosternaient devant son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang de feu où brûle du soufre et les autres furent tués par l'épée de celui qui monte. L'épée qui sort de sa bouche. Et tous les oiseaux se rassemblèrent, se rassasièrent de leur chair. C'est extraordinaire, comme vision du dernier combat. Si ce n'était pas révélé, on dirait, mais c'est un rêve, un cauchemar. C'est la plus grande imagination qui peut exister. C'est révélé. Il y a un mystère. Le mystère du corps mystique avec le cheval blanc dans la grande lutte pour Dieu. Dernier, on est tous mobilisés. Le jour de votre prise à vie, vous acceptez la mobilisation générale. Le jour de votre profession, vous acceptez la mobilisation générale. Et vous dites, oui, mon capitaine. Vous acceptez de faire partie de cette grande lutte à la suite du cheval blanc. C'est merveilleux, ça. Et c'est vrai, ça. On est tous mobilisés. Alors, il n'y a pas que les religieux et les religieuses. Hein. Tous les chrétiens sont mobilisés. Quelquefois, ils ont envie de regarder en arrière. C'est-à-dire, pas tout de suite la mobilisation générale. Laissez-moi enterrer mon vieil oncle. Laissez-moi enterrer tel ami. Enterrer, ça veut dire, vous voyez bien, l'héritage derrière. Hein. Il y a tout ça derrière. Laissez-moi un peu de temps. Pas tout de suite, pas tout de suite. Soyez pas si exigeants. Et c'est dire, veut que le choix soit immédiat. C'est farouche, vous savez. Jésus, c'est celui qui monte le cheval blanc. Un symbolisme très étonnant et très beau. Ça, c'est le dernier combat. Et je vis un ange descendre du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent, l'antique serpent qui est le diable et le Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella sur lui, pour qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que fussent achevés les 1000 ans. Après cela, il doit être délié pour un peu de temps. Ça, c'est un très grand mystère qui a été interprété de façon très particulière par les millénaristes qui disent que sur la terre, il y aura un temps de paix. Retour au paradis terrestre. Et l'Église a condamné ça. Donc on ne peut plus l'interpréter comme ça. Donc les 1000 ans, c'est symbolique. C'est symbolique. Vous savez bien, est dit dans l'Écriture. 1000 ans, c'est comme un jour pour le Seigneur. Je crois que les 1000 ans représentent la vie contemplative dans l'Église. Le contemplatif a une grâce particulière. Il est enveloppé d'une protection très particulière. Et le diable est comme enchaîné. Il n'atteint plus. C'est très facile à comprendre. Dès que vous vivez au niveau de la foi, de l'espérance et de la charité, vous vivez au niveau de la vie contemplative. Notre foi théologale est contemplative. Notre espérance théologale est contemplative. Et notre charité aussi. Or, quand vous vivez de foi, d'espérance et de charité, le démon perd votre trace. Il ne sait plus où vous êtes, parce que vous êtes caché en Dieu. Quand vous vivez au niveau psychologique, hein, vous vous tâtez le pouls. Oh, aujourd'hui, ça ne va pas. Oh, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas ce que j'ai. Mais ça ne va pas du tout aujourd'hui. Je suis angoissé. Oh, je suis triste aujourd'hui. Oh, ça ne va pas du tout. Quand vous vous repliez sur votre psychologie, votre psychisme, le démon le connaît très bien. C'est le meilleur des psychiatres et des psychanalystes. Il était bien avant Freud. Il a piqué Freud, un venin, qui a fait qu'il est devenu comme ça. C'est le premier des psychanalystes, Freud. Le démon. Freud, c'est un second. Un petit serviteur lointain, que le démon méprise, mais souverainement, parce qu'il ne comprend pas grand-chose. Le démon, dès qu'on se replie au niveau psychologique, il est toujours victorieux. Ah, si on comprend ça, on est sauvé. Dès que vous vous mettez dans l'attitude contemplative, vous échappez. 1000 ans. C'est merveilleux. Hein? Personne d'entre nous vivront 1000 ans. Vous voyez, la garantie, 1000 ans. Le contemplatif, il a une garantie de 1000 ans. Dès que vous faites un acte de foi, d'espérance et d'amour, garantie 1000 ans. C'est pas les montres suisses, hein? Garantie 1000 ans. C'est quelque chose d'infiniment supérieur. Pendant 1000 ans, le démon ne peut plus vous atteindre. Ah, si on savait ça. Comme on éviterait des bêtises et une perte de temps. C'est ça qui est montré ici. Dès que vous entrez dans la foi, l'espérance et l'amour, le démon ne peut plus vous atteindre. Il a perdu votre trace. Tandis que dès que vous vous repliez sur vous-même, vous vous tâtez le pouls. Ah, aujourd'hui ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Ah, je ne sais pas pourquoi. Puis on le dit au voisin, ça ne va pas aujourd'hui. Dis pourquoi. Ah, je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne fait rien, on continue. C'est peut-être parce que, je ne sais pas, il y a eu... Oui, on a rencontré un tel, une telle. Alors ça ne va pas. Mais on tombe sous la coupe du démon. Le démon, c'est celui qui veut nous faire perdre du temps. Et la vie contemplative nous fait gagner 1000 ans. C'est extraordinaire. C'est un langage étonnant. Hein. Chercher à interpréter autrement, vous n'y arriverez pas. J'ai cherché. La seule interprétation, c'est celle-là. Si on veut éviter le millénarisme. La seule interprétation, cherchez bien. Si vous trouvez une autre explication, vous me le direz. Et vous n'arriverez pas. Parce que c'est la vie contemplative, la vie de foi, d'espérance et de charité qui nous fait complètement échapper au démon. Complètement, il ne sait pas. Le démon ne sait plus ce que c'est que la foi. Le démon ne sait plus ce que c'est que l'espérance. Le démon ne sait plus ce que c'est que la charité. On lui échappe. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma. et c'est là sur lui. Voyez les limites au pouvoir du démon. Les limites au pouvoir du démon, tu ne peux pas pénétrer dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie contemplative. Il ignore complètement notre vie contemplative. Quand vous faites oraison le matin et que vous ne dormez pas, quand vous faites oraison le matin et que vous vivez de foi, d'espérance et d'amour et des actes d'adoration sous la mouvance de foi, d'espérance et de charité, le démon ne sait pas où vous êtes. Vous l'échappez complètement. Mais dès que vous commencez à rêvasser, dès que le planeur recommence, alors le démon fait tourner ça indéfiniment pour tomber sous sa coupe. Alors au début, c'est charmant. Le temps passe vite. Mille ans. C'est ça l'horizon, mille ans. Dès que vous êtes dans l'horizon, mille ans. C'est pas étonnant, on est au-dessus. C'est très beau ce passage. Si on le comprend de cette manière-là, c'est très grand. C'est beau de voir que dans l'Apocalypse, on montre ça. Et je vis des trônes et ils s'assirent dessus. Il leur fut donné de juger. Et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils reprirent vie et ils régnèrent avec Jésus pendant mille ans. Vous voyez bien? Quand on est avec Jésus, c'est mille ans. C'est vrai, on est au-dessus du temps. On est dans l'éternité. Les autres morts ne reprirent pas vie jusqu'à ce que fussent achevés les mille ans. Telle est la résurrection, la première. Heureux et saint, celui qui a part à la résurrection. C'est votre vie contemplative. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ. Ils régneront avec lui pendant les mille ans. Dès que vous vivez votre vie contemplative, vous êtes avec Jésus pour mille ans. Vous échappez à tous les combats. Le démon ne pénètre plus. Et lorsque seront achevés les mille ans, le Satan sera délié de sa prison. Il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Les rassembler pour la guerre, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Et un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète. Ils seront torturés jour et nuit pour les éternités des. Et on dira que l'enfer n'existe pas. Hein? Il est révélé, là. Il est dit que vous n'avez pas le droit de rien soustraire de l'Apocalypse. C'est dit. Et que vous n'avez pas le droit d'ajouter. C'est dit. Ce sont les dernières paroles de l'Apocalypse. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Parce que c'est très important, ça. Et je l'atteste, moi. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont décrites dans ce livre. Si quelqu'un y retranche quelque chose, les paroles du livre, de cette prophétie, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte qui sont décrites dans ce livre. Quand j'ai lu ça, j'ai pas envie de restreindre et de supprimer cet étang de feu, de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront torturés jour et nuit pour les éternités d'éternité. Je n'ai pas du tout envie de dire que l'enfer n'existe pas, parce que ça me tombera sur la tête. Vous voyez ? Pas du tout envie. Un langage symbolique, je sais bien, mais réel, symbolisme divin. Faut pas l'oublier. C'est pas un symbolisme poétique. C'est pas une espèce de midrash. C'est pas une espèce de mythe. Non, non. Symbolisme divin. Il y a une réalité cachée là derrière. Et c'est au terme de l'Apocalypse qu'on montre ça. C'est très impressionnant. Faut quand même, hein. L'Apocalypse, c'est un livre révélé qu'on doit garder dans son cœur. Vous voyez, et ça montre la grande miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, elle assume la justice. Et plus je vois la justice, plus je comprends la miséricorde. Faut pas l'oublier. Celui qui supprime la justice, supprime la miséricorde. Quand je comprends que Dieu est sage et juste, je comprends alors la folie de sa miséricorde. Et je vis un trône blanc, voilà la miséricorde. Juste au moment où on montre la justice en ce qu'elle a d'ultime, extrême, et je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis, et devant sa face, s'enfuirent la terre et le ciel. Il ne se trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui se trouvait écrit dans ces livres, selon leur œuvre. Alors le livre symbolise le livre. Vous comprenez bien que Dieu n'a pas besoin de livres. Non, pas besoin. C'est un symbolisme, nous avons besoin de livres. Maintenant, on a des ordinateurs. Hein. L'Apocalypse ne parle pas d'ordinateur. On dirait qu'il y a un grand ordinateur, énorme, où tout est écrit. Il a passé un bouton. Tout de suite. Non. Sans les livres, parce que c'est les livres qui sont écrits. On voit très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que toutes nos actions bonnes, Dieu les garde dans son amour. C'est ça. Dieu est plus attentif. Comprenez bien. Dieu est plus attentif à nos bonnes intentions, à nos désirs, à nos soifs d'aimer, qu'au résultat. On dit que l'accusateur, c'est le démon, est plus attentif aux résultats, aux échecs, qu'à nos bonnes intentions. L'accusateur, le diable, l'accusateur de nous, l'accusateur de chacun d'entre nous. Il n'en rate pas une. Dès que vous faites un faux pas, lui, immédiatement. Je crois qu'il a un ordinateur pour ça. Ça, il n'en rate pas une, lui. Et il garde ça. Toutes les conséquences. Il ne regarde pas les intentions. Le démon ne regarde jamais les intentions. Il regarde toujours les résultats. très important pour comprendre ce qu'est la miséricorde de Dieu. De regarder de temps en temps l'accusateur. C'est comme ça que l'appelle l'Apocalypse. C'est l'accusateur de nos frères. Le concierge qui est là toujours au coin. Toujours au coin. Et regarde. Madame est passée à telle heure. Elle est rentrée à telle heure. Toujours. Ah, il est pitou. Absolument tout. Il voit tout. Ça, c'est l'accusateur. Il regarde tout, tous les échecs. Dieu sonde les reins et les cœurs. C'est les intentions profondes qu'il regarde. Et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui se trouvait écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qu'elle avait. Ça, c'est pour les Bretons, vous voyez. Il y a quand même une petite intention particulière pour tous ceux qui vivent. Les Hollandais aussi, tu vois. Ils vivent sur la bord de la mer. Ça. Alors, il y a beaucoup qui sont dans les fonds des eaux. Et la mer donna les... Et la mer donna les morts qu'elle avait. Et la mort et la Hadès donnèrent les morts qu'ils avaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et la Hadès furent jetés dans l'étang de feu. Telle est la seconde mort, l'étang de feu. C'est la mort intérieure. C'est l'orgueil. Et si quelqu'un n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Alors faisons attention, n'interprétons pas ça selon une espèce de fatalisme. C'est très faux. C'est contraire à toute la doctrine de l'Écriture. Ce qui fait comprendre que Dieu regarde ce qui en nous est le meilleur. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. Et la mer n'est plus. Très extraordinaire, ça. C'est très intéressant à commenter. Hein. Le nouveau ciel. La transformation complète de notre univers. C'est le baume final. Pas du tout comme le point de départ. C'est Dieu qui reprend tout dans un mystère de gloire. Alors, Origène, voyez, chaque élu sur une petite planète. Vous l'avez choisie, celle que vous avez. Une petite étoile là-bas. Très très belle. C'est celle-là que vous avez choisie. C'est pas celle-là que vous aurez, hein. Parce que je crois que c'est une vision très matérielle. Je crois que les étoiles seront chaque corps glorifié. Les étoiles, c'est une attente des corps glorifiés. Dans une vision de foi. Parce qu'un jour, il n'y aura plus cet univers. Il n'y aura plus que les corps. Vous allez dire, mais comment ils vont se tenir debout, hein? Par leur contemplation. Une lévitation éternelle. Par leur contemplation. Attirée par Jésus. Parce que notre univers, c'est le premier ciel, la première terre. Le premier ciel, la première terre, s'en est étalé. Et la mer n'est plus. Et je vis la ville. La ville sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, c'est l'Église. Ce sont tous les élus, c'est nous tous. Il faut se voir dans cette Jérusalem céleste. Et la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête comme une épousée, parée pour son mari. et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici le séjour de Dieu avec les hommes. Il séjournera avec eux, et eux seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus, car les premières choses s'en sont allées. » Et celui qui est assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Vous voyez la signification de la prise d'avis ? Je fais toutes choses nouvelles. La signification de la profession. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et il dit, écrit, car ses paroles sont fidèles et véridiques. Et il me dit, c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. À qui a soif, je donnerai, moi, de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Le vainqueur héritera de cela, et je serai pour lui un dieu, et lui sera pour moi un fils. Vous voyez la paternité qui demeure. C'est la paternité qui demeure de toute éternité. Quant aux peureux, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs. Leur part est dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Bien affirmé, hein ? Le lieu, oui, du mensonge. C'est le mensonge lié à l'orgueil. C'est ça qui fait que celui qui est orgueilleux refuse la miséricorde et n'accepte plus l'amour. Et donc il se condamne lui-même dans son orgueil parce qu'il n'accepte pas la miséricorde. Et vint un des sept anges qui avait les sept coupes pleines des sept plaies, les ultimes. Il parla avec moi, disant, ici, que je te montre l'épousée, la femme de l'agneau, l'Église, Marie. Et il m'emporta en esprit sur une montagne grande et haute. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Avec la gloire de Dieu. Vous voyez, on ne dit pas Rome, on dit toujours Jérusalem. Cherchez pourquoi. Très curieux. Et ça, c'est un fait. Vous allez dire, parce que Jean était lié à Jérusalem. Oui, oui, oui. On dépasse ce conditionnement. Il y a quand même quelque chose d'impressionnant. Il me montra la ville sainte de Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, avec la gloire de Dieu. Son éclat est semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Elle a une muraille grande et haute. Elle a 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms inscrits. Qui sont ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Au levant, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Au couchant, 3 portes. Et la muraille de la ville a 12 assises, et sur elle 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui parlait avec moi avait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville. Et ses portes, et sa muraille. Et la ville est quadrangulaire, et sa longueur est la même que sa largeur. avec le roseau sur 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur sont égales. Il mesura sa muraille, 144 coudées, mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange. Comme c'est mystérieux. La Jérusalem céleste, oui, mesure d'ange. Oui, c'est une architecture la plus parfaite, la plus harmonieuse qui soit. La splendeur, la beauté de la Jérusalem céleste. C'est pour le Magnificat de Paris. C'est cette splendeur de la Jérusalem céleste. Et le matériau de sa muraille est de jaspe. Et la ville est d'or pur, semblable à du fer pur. Les assises de la muraille de la ville sont parées de toutes pierres précieuses. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaz, la dixième de hyacinthe, la douzième d'améthyste. Vous ramenez toutes ces pierres. Toute la mystique des pierres, la symbolique des pierres. Très, très curieux. Voyez ce que dit Denis. Les plus grands secrets sont cachés par les symbolismes les plus grossiers. C'est pas grossier les pierres précieuses, mais c'est pas la vie. Et pour exprimer la vie des bienheureux, de la ville sainte, on prend toutes ces pierres, qui toutes ont un éclat particulier. On en connaît quelques-unes quand même. Hein. On voit bien ça. Il faut voir le grand musée à Constantinople, le musée de pierres précieuses, inouï. Alors quand on le visite avec l'Apocalypse en main, on voit ce que c'est. Et c'est vrai, il faut se mettre dans le contexte de ces pays pour voir ce que c'est. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes est une seule perle. La perle. Nous sommes tous une perle de Dieu cachée dans le cœur de Jésus. Donc on est une porte. Et chacune des portes était une seule perle. Et la place de la ville est d'or pur, comme du verre transparent. Et je n'y vis pas de sanctuaire. Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. Et la ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée. Et sa lampe, c'est l'agneau. Et les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre lui apportent leur gloire. Et jamais ses portes ne seront fermés le jour, car là, il n'y aura pas de nuit, et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations, et jamais n'y entrera rien souillé, ni celui qui pratique abomination et mensonge, mais seulement ceux qui se trouvent inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, resplendissant comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Je crois que c'est Marie. Au milieu de la place de la ville, et de part et d'autre du fleuve, un arbre de vie, fructifiant 12 fois, donnant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau y sera, et ses esclaves, c'est-à-dire ceux qui l'adorent, lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'ont pas besoin de lumière de lampe, ni de lumière de soleil, car le Seigneur Dieu luira sur eux, et ils régneront pour les éternités d'éternité. Et il me dit, ce sont des paroles fidèles et véridiques, et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bien vite. L'ange, je crois que c'est la reine des anges, Marie. C'est Marie qui annonce ça. C'est le privilège de Marie. Et toutes les apparitions de Marie annoncent le retour de Jésus bientôt. Et voici que je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Vous voyez, on cherche tous à être heureux et on oublie de garder les paroles de l'Apocalypse. Et c'est moi, Jean, qui entendais et voyais cela. Et lorsque j'eus vu, et lorsque j'eus entendu et vu, je tombai pour me prosterner aux pieds de l'ange qui me montrait cela. Et il me dit, garde-t'en bien. C'est touchant cette vénération de Jean pour l'ange, pour Marie. Il me dit, garde-t'en bien. Je suis un esclave comme toi et tes frères, les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre, devant Dieu, prosterne-toi. C'est Marie qui apprend l'adoration. Toujours. C'est la première chose qu'elle nous apprend. Et c'est la dernière chose qu'elle nous apprendra. Adorer le Dieu unique. Petite servante de Dieu. Et il me dit, toujours Marie qui parle à Jean. Ça, j'en suis sûr. Les exégètes ne peuvent pas le dire. Mais en théologie mystique, on peut le dire. C'est impossible autrement. Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Vous voyez, il était proche pour Jean, il est encore plus proche pour nous. Ça, c'est bien évident. Et donc, nous devons recevoir ces paroles pour comprendre que le temps est proche. Que l'injuste pratique l'injustice encore. Que le sale se salisse encore. Que le juste pratique la justice encore. Et que le saint se sanctifie encore. Ça, c'est pour les novices. Voici que je viens bientôt. Et mon salaire est avec moi. Pour rendre à chacun selon qu'il est son œuvre. Et je vis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Oui, pardon, c'est pas Marie, c'est l'alpha et l'oméga qui dit ça. Parce que il y a Marie qui dit d'adorer, se prosterner pour écouter les dernières paroles de Jésus. L'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Pour qu'ils aient pouvoir sur l'arbre de vie et entrent dans la ville par les portes. Dehors, les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester cela au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton de la race de David, l'étoile resplendissante du matin. Et l'esprit et l'épousée disent, viens. et que celui qui entend dise « Viens !» et que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste, moi, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont décrites dans ce livre. Et si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, qui sont décrites dans ce livre. Celui qui atteste cela dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, la grâce du Seigneur.